Comme dit le psalmiste, Nashrei Yoshvei Betera, heureux celui qui est assis dans ta maison, c'est-à-dire où on sent la présence divine. Et en vous voyant tous, c'est quand même d'abord un immense sentiment de joie de nous retrouver après cette année. Année difficile pour certains et qui nous inspire un certain nombre de réflexions que je me permets de dire pour ouvrir cette soirée. J'ai réécouté la cassette que vous avez devant vous. Devant vous, vous avez une cassette offerte par les institutions, enregistrée l'année dernière à l'occasion de cette soirée qui est la conférence de Raveman. Cette cassette a été enregistrée et diffusée par Dvar Torah, à qui nous sommes aussi reconnaissants de ce travail. Et dans cette cassette, j'ai entendu une phrase de Raveman que je me permets de lire. Le juif n'est pas seulement celui qui fait des mitzvot, celui qui étudie, c'est celui qui se prépare. Et le Rav continue en parlant de la Géoula. Et quand j'ai réentendu cette phrase un an après, je me dis qu'elle était vraiment prémonitoire, parce que dans les semaines, dans les mois qui ont suivi cette déclaration, nous avons connu ce que le monde appelle la crise. Et je me suis dit, quel est le rapport entre la crise et le fait qu'on se retrouve ici ce soir tellement nombreux pour soutenir ces institutions? La crise, vous savez, c'est quand le monde dit on perd la confiance. On entend tous les jours les journaux, les radios dire l'indice de confiance du consommateur. Et là, je me suis dit, mais nous, on n'est pas du tout concernés par ça. Nous, on n'a qu'un seul indice de confiance. C'est l'indice de confiance qu'il y a en Hachem, en Dieu, qui nous a donné sa Torah. On n'est pas concerné par la crise. Et quand je vous vois ici, je me dis que c'est une magnifique illustration de cette confiance que nous avons et qui est différente du monde qui nous entoure. Bien sûr, on vit dans le monde et on n'est pas du tout indifférent à ceux qui sont victimes de cette crise et nous devons avoir une pensée et nous devons savoir faire du recès et nous devons savoir les aider. Je me suis posé la question, modestement, et je prie les rabbanim de m'excuser si je commis quelques erreurs. Je me suis dit, d'où nous savons que nous ne sommes pas concernés de la même façon que le monde qui nous entoure. Et là, j'ai trouvé cette ordre d'Hachem à Abraham, le premier d'entre nous, l'air les rats, va pour toi tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, entre guillemets, tu n'es pas dans le coup de tout ce qui t'entoure. Tous ces problèmes, ces idoles qui s'appellent les banques, les grandes tours, etc., les indices de confiance, tu n'es pas concerné. Toi, tu vas avoir une règle du jeu qui fait que la confiance, tu l'as toujours. Alors, je me suis posé une autre question. Je me dis, mais Abraham, lui, il avait le bon Dieu, il était en prise directe. Et nous, comment on fait? Comment on fait pour arriver à ce niveau qui fait qu'on a cette confiance qui nous met en dehors du sentiment de la crise? Et là, je me suis dit, c'est la raison qui fait qu'on est ici et qu'on soutient les institutions d'Épinay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette confiance qu'on doit avoir, il faut la créer. C'est sûr qu'on est dans ce que le Rav expliquait l'année dernière, le monde du Maasé, le monde Mahashava. C'est-à-dire, le monde du Maasé, on est dans l'action. On a un monde matériel, on a un corps, on veut se nourrir, on a des besoins comme tout le monde. Et ça, ceux qui n'ont que ça, ils sont en pleine crise. Mais nous, on a un autre monde. On a le monde de la pensée, on a le monde de la compréhension. Et c'est celui-là que nous apprenons grâce aux institutions Mekor d'Israël. Maintenant, je me suis posé une autre question. À partir de quel âge on doit apprendre qu'on doit avoir cette confiance? À partir de quel âge on doit apprendre qu'il y a un monde spirituel, qu'on a des règles du jeu? Et là, j'ai trouvé dans notre Torah que Abraham, il a fait un festin quand Yitzhak a été sevré, c'est-à-dire à 24 ou à 36 mois suivant les avis. Ben, on fait un festin quand on a un enfant, on fait un festin à Brit Mila, mais au sevrage, pourquoi? Et ça, le Rav Nunk nous dit, c'est de lui que je l'ai lu, que ça, ça nous indique que le festin, c'était pour nous dire qu'un enfant chez nous à 3 ans, il est déjà capable de diriger, d'apprendre des notions spirituelles. Que ce n'est pas seulement on te donne à manger, on te donne des jouets. Non, il y a un monde au-delà de ça avec une règle du jeu. Cette règle du jeu, où est-ce qu'on l'apprend? Je crois qu'on ne l'apprend plus dans le monde, entre guillemets, non religieux, qu'il soit juif, qu'il soit laïque, qu'il soit autre. Vous savez, ces cours de morale dont nos ministres et présidents nous serinent un peu, ça n'existe plus. Mais chez nous, dans l'école que vous soutenez et dont vous avez le film qui tourne en continu, vous voyez tous ces beaux enfants de chez nous à Épinay, dans cette école dirigée par Madame Eman, là ils apprennent. Et je vais vous raconter une anecdote extraordinaire. Elle est peut-être toute petite, mais je la trouve très significative. J'ai rencontré il y a un an et demi, c'était à Tichri, une enfant de l'école d'Épinay. Et elle me dit, tu sais, j'ai fait tchouva. Je dis, tiens, un enfant de 4 ans qui fait tchouva, c'est quand même bizarre. Je lui dis, et qu'est-ce que c'est faire tchouva à 4 ans? Ah, c'est qu'il faut faire du recéd. Je lui dis, et qu'est-ce que c'est faire du recéd? Elle me dit, bah, c'est donner ses jouets à nos petits camarades. Je lui dis, mais c'est une anecdote, c'est extraordinaire, parce que ça, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est qu'à un enfant, on commence dès 3 ans à lui apprendre qu'il y a une marachava, il y a une pensée qui fait que on n'est pas propriétaire des choses, qu'on n'a pas de convoitise, que le lotar mod, qui est à la source de tous ses désirs d'argent, de richesse, de réussite, etc., parce qu'on veut toujours ce qui appartient à l'autre, et comme je crois le Rav Dessler, il dit, la convoitise, c'est un vol ancré dans le cœur. À l'école, à 3 ans, 4 ans, on commence à leur apprendre ces règles. Et puis, pour apprendre à ses enfants, il faut former des maîtres. Et ça, c'est le rôle de la yeshiva. Ça, c'est le rôle de la yeshiva, de former ceux qui formeront des enfants et qui permettront ainsi que la Torah, elle se transmet de père en fils. Et ainsi, nous, on n'a plus de problème de confiance. Parce qu'on a une seule confiance, on a un seul bitaron, on a une seule emouna, et on sait qu'il suffit de dire « Potear et tiadera ou masbia l'école rai ratson » ouvre tes mains, avec confiance, tout ce que tu as besoin, tu auras. Je voulais juste vous dire ces quelques mots parce que c'est mon ressenti personnel. C'est comme si je me parlais à moi-même, tellement il est difficile de vous parler devant les rabbanim. Mais je veux vous dire que le but de tout ça, c'est le Rav Emen, il a dit, c'est pas celui qui fait seulement des mitzvot, c'est pas celui qui étudie, c'est celui qui se prépare. Qui se prépare à quoi? À la Géoula, à la délivrance. Et grâce à cette aide aux écoles qui forment les enfants, grâce à cette aide à la yeshiva qui forme les maîtres, je vous assure qu'on est des acteurs de la délivrance. À notre niveau personnel, on se libère, et au niveau collectif, et que le Klal Israël connaisse la délivrance, l'arrivée de Mashiach, Bimera Miyamenu.
Amen.
Merci.
Bruchim Abayim, Bruchot Abaot. Comme l'a dit le président, M. Kachan, il y a quelque chose d'assez spécial. Il semble que ce rendez-vous de l'année avec le Rav Emen, avec l'équipe qui est autour du Rav Emen, est tout à fait spécial et qu'on en tire un enseignement pour tout le reste de l'année. Parce que lorsqu'on a été vous trouver, vous avez tous répondu parce que vous savez combien que ces institutions sont essentielles sur la place, la région parisienne, la France, en dehors de France, et tout est à votre honneur. Vous savez que ce rendez-vous avec des personnes qui sont au-dessus des lois qu'on pourrait dire naturelles du monde fait que ce contact nous reste et nous donne un très grand enseignement. Quel enseignement? Vous savez que dans les Yetziat Mitzrayim, les parachiotes que nous lisons ces temps-ci, ces semaines, il y a les Aser Makot, les 10 plaies d'Égypte. Dans les 10 plaies d'Égypte, il y a à apprendre de chaque plaie, mais il semble que ce soir, vous venez justement pour apprendre une de ces plaies. La 9e plaie, qui était la Makat Hosher, était en corrélation avec celle de la création de la lumière. Vous savez que la Makat Hosher, c'est écrit Lorau ish et ahiv. Au moment où il y a les ténèbres, l'obscurité totale, on ne peut pas voir même celui qui est à côté de nous. Mais ce qui est spécial, c'est écrit ensuite Velo kamu ish mitartav. Personne n'a pu se lever. Il était impossible de se déplacer, de bouger. Pourquoi? Parce que ces ténèbres avaient une force tout à fait spéciale. Ils étaient mamachout, ils étaient présents. De quoi venait cette Makat Hosher? Vous savez que les Égyptiens étaient Ovde Avodazara. Ils ont entraîné malheureusement avec eux plusieurs Juifs à faire Avodazara avec eux. Qu'est-ce que c'est que la Avodazara? La Avodazara, c'est quelqu'un, une idole, une statue que quelqu'un se fait à soi-même, qu'il imagine telle qu'il le pense l'avoir, qu'il veut la concevoir, qui lui donne les idéaux qui en vérité sont le reflet de sa personne, de ses désirs, et il se prosterne devant cette idole. C'est exactement comme s'il prenait un miroir et qu'il se prosternait devant lui. Se prosterner devant soi-même, devant cette idole, c'est être enfermé dans un cocon qui fait que la personne est le centre du monde, elle est la seule personne qui existe au monde et c'est la seule personne à qui on peut porter un intérêt. Toutes les autres personnes n'ont aucun intérêt. C'est pour ça que c'est écrit Velora ou ishta et ahiv. Lorsque on est dans les ténèbres, mais ça peut être les ténèbres aussi qui sont ceux de la Torah, de l'ignorance de la Torah, de la Torah et les mitzvot, on ne voit pas l'autre. L'autre peut être à côté de nous, on ne le voit, constate même pas. Alors que Ulchol ben Israël aya or me moshvotav, vous savez que la lumière, elle a quelque chose de particulier, qu'elle ne peut pas être cadrée. Lorsqu'on allume une lumière, on ne peut pas allumer une lumière rien que pour soi-même. L'autre, les autres en profitent. Lorsque j'allume aussi une lumière pour quelqu'un d'autre, j'en profite moi-même. Ça représente exactement l'image qu'on donne à une histoire d'un élève qui est allé voir son Rav et il lui a demandé « Rav, s'il te plaît, explique-moi qu'est-ce que c'est que le Geinam ?» Alors le Rav lui a dit « C'est bien simple, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le Geinam. » Il lui a dit « Le Geinam, c'est une belle pièce, une belle chambre, bien décorée, avec une belle table, une belle nappe, des fleurs, des fauteuils. Et voilà qu'il y a deux personnes qui sont là. » Et ces personnes étant supposées être dans le Geinam, et voilà qu'on leur apporte une soupe fumante, odorante, qui a un très bon goût, et ils ont faim, et ils veulent manger. Mais à côté de cela, on leur donne des cuillères immenses, un mètre et demi. On ne peut le prendre qu'au bord de la cuillère. Et voilà que chacun veut prendre la soupe et veut la porter à sa bouche, mais il ne peut pas, c'est trop long. Et il la verse sur lui-même, il la verse à côté, mais il n'arrive pas à manger. Et c'est ainsi que ça se continue de cette manière. Il a toujours faim, il a une belle soupe devant lui, mais il ne peut pas manger. Et l'autre qui est en face de lui, la même chose. Comme ça, lui donne comme exemple le maître à son élève. Et l'élève qui demande à son maître, et explique-moi comment il est le Gan Eden. Lui dit, le Gan Eden, c'est bien simple. C'est la même pièce, c'est la même chambre, bien décorée, une belle table, une belle nappe, des fauteuils et deux personnes qui sont supposées être des tzadikim, donc, auquel on apporte, des malachim apportent une belle soupe fumante, et voilà qu'on leur apporte aussi les mêmes choses, les mêmes cuillères. Et rapidement, chacun prend la cuillère, prend de la soupe, la bonne soupe, et la donne à l'autre. Il la donne à l'autre, et l'autre mange, et celui qui est en face de lui aussi, il prend la cuillère et il la trempe dans la soupe et il lui donne à manger. Et tous les deux sont rassasiés de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont mangé, cette belle soupe. Alors l'élève qui demande à son rave, « Rave, mais si c'est comme cela, pourquoi on les appelle des tzadikim ? Chacun a donné à l'autre à manger pour pouvoir manger lui-même. » Il dit « Non, ce n'est pas comme cela. Les tzadikim, ce n'est pas de cette matière qu'ils ont fait. Lorsque un tzadik a un besoin, mais qu'il voit en face de lui un autre juif qui a un besoin, il oublie totalement son besoin, il s'oublie à lui totalement. Il ne voit que l'autre, il ne voit que le besoin de l'autre. Et voilà qu'il donne à manger à l'autre, non pas parce que pour que l'autre lui donne à manger, mais tout simplement pour remplir ce que l'autre a le besoin du prochain. Et il lui dit, mais à ce moment-là, pourquoi dans le Geinam, est-ce que les personnes n'ont pas eu le même réflexe de donner à manger à l'autre? Il dit, c'est bien simple, si c'est le Geinam, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont été habituées à ne voir que leurs problèmes, à ne voir que leur propre personne dans ce monde. Et donc, pour lui, il n'y a personne qui existe à côté de lui. Si on lui dit, il y a quelqu'un en face de toi, il lui dira, mais je ne vois personne. Ou il dit, mais il y a quelqu'un qui a faim en face de toi. Il dira, mais je ne vois pas absolument personne. Pourquoi? Parce qu'il est centré sur lui-même. Il est centré sur lui-même, il ne peut pas voir l'autre, il ne peut pas donner à l'autre, même s'il va en profiter de cette même manière. Et c'est comme cela exactement la Makat Hosher. Velo kamu ish mitartav. Personne n'a pu se déplacer. Pourquoi? Parce que l'ora ou ish et arrive, parce qu'un n'a pas pu voir l'autre. Pourquoi? Parce qu'il était occupé à voir sa propre personne. Et tandis que dans le Gan Eden, c'est, on sait combien que la lumière, elle a d'importance dans le Klal Israël, les Nerot du Beth Amikdash dans le sanctuaire, les Nerot de Shabbat, c'est exactement comme cela. Il y a tout le positif qui est dans la lumière, il y a tout le positif qui est dans le Klal Israël. Ici, vous avez rendez-vous chaque année avec des gens qui sont tournés vers les autres, qui sont là pour les autres, qui ne vivent que pour les autres. Et c'est ce rendez-vous qui fait qu'en fin de compte, vous prenez avec vous un très grand bagage. Mais de cela, nous devons dire Toda Rabba, merci. Leshana Abba, Birushalayim, Abnouya, Be'elat Hashem, à travers ces mitzvot, que vous ayez bracha et atzlacha dans votre demeure et que des yeshurot et des tefilot tovot pour vous, pour vos familles.
Ceux qui ont fait, ceux qui se sont laissés faire, ceux qui ont aidé, ceux qui ont aidé de toutes leurs forces, je voudrais leur dire comment nous sommes sensibles à leur soutien, à leurs encouragements, et de même que ce soir nous nous sentons soulagés d'un fardeau qui, au lieu d'être celui de quelques-uns, est celui de beaucoup, beaucoup d'amis. Alors que chacun, individuellement et collectivement, que tous soient soulagés des fardeaux qui sont les leurs, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que chacun reçoive Kippou Lato. Depuis quelques années déjà, j'ai essayé de ne pas remercier individuellement trop de personnes parce que on ne peut pas remercier tout le monde. Mais ce soir, peut-être parce que après 30 ans, et au moment où on me parle de retraite, je voudrais remercier deux personnes. Deux personnes discrètes, mais qui sont à nos côtés depuis des années et des années. Longtemps où on distribuait une rôtissoire ou une couette. Depuis ces temps-là, ils sont avec nous. Et il y en a un qui prend aujourd'hui sa retraite, qui est à nos côtés depuis le début. Et je voudrais le remercier du fond du cœur. C'est le docteur Lévy d'Épinay. Il y en a un deuxième qui lui aussi, avec une discrétion, et bien qu'il n'en retire aucun bénéfice, puisqu'il n'a jamais eu d'enfant dans nos institutions, nous a toujours aidés avec une discrétion absolue. Le Shem Shamaïm, c'est M. Tzion Partouche. Mais il y a deux personnes. Ceux qui ont peut-être travaillé le plus, et que je voudrais remercier particulièrement, parce que vous savez que le Midrash dit va citer motam. Et les mitzvot, Akadosh Baruch Hu te propose des mitzvot, vasitem otam. Al tikre vasitem otam, ela vasitem atem. Ze mishen lo ben venoten schar mishnim beschar sofrim. Il y a des gens qui ne bénéficient pas de nos institutions. Il y a des gens qui n'attendent rien de nous. Et pourtant, c'est ceux qui nous aident le plus. C'est pour ça, ce soir, je voudrais remercier absolument. Et bien que je les côtoie chaque jour, bien qu'ils sont au chiot, mais ces choses-là, ça se dit au moment où il faut. Je voudrais remercier du fond du cœur le docteur Marc Smadja. Et le docteur Lionel Benayoun. Celui qui a été l'artisan de cette soirée, celui à qui vous aurez affaire si vous avez des problèmes avec votre billet, votre cadeau, ou n'importe quel problème informatique, qui a passé des nuits et qui a pu arriver très très justement la soirée, Chaim Halevi. J'ai pensé que ce soir, il fallait parler des problèmes qui sont les nôtres. Et vous savez qu'aujourd'hui, un des grands problèmes, c'est l'éducation de la jeunesse, la difficulté de transmission. Et alors qu'on croit que les choses vont de mieux en mieux, que le nombre, c'est quelque chose qui compte. On s'aperçoit au fond qu'il est de plus en plus difficile de transmettre, de se faire comprendre, d'éduquer. Et on se demande pourquoi. Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit que il y a trois choses qu'on doit faire comprendre lorsqu'on a des descendants qui grandissent. Il dit la première chose, c'est le Emet et le Sheker. Il faut avoir une idée claire et transmettre une idée claire de ce qui est juste, ce qui est faux. Ou ce qui est juste, ce qui est injuste. Quelqu'un doit avoir des critères de pensée. La deuxième chose, il dit, c'est... Il faut savoir avoir un guédère, c'est-à-dire se forger des barrières, se forger des limites, savoir dans quel périmètre on peut se mouvoir et dans lequel on ne peut pas. La troisième chose, c'est qu'il y a une punition ou une récompense et que chaque chose se paye dans les deux sens. Il appelle ça le sachar velonesh. On doit savoir que chaque chose a des conséquences et que les conséquences vous reviennent toujours. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est plus tard? C'est ce qu'on appelle l'amidat hadin. L'amidat hadin, ça veut dire qu'il faut tout justifier. Il n'y a rien qui puisse exister qui ne doive trouver sa justification. En vérité, on va essayer de comprendre. Parce que d'abord, essayer de voir comment, d'une façon théorique, on peut expliquer et nous expliquer à nous la façon de faire comprendre ces choses. Vous savez qu'un homme doit grandir. Un homme doit se développer. Il est écrit dans les Sfarim qu'on ne peut pas dire avant la création du monde. On ne peut pas dire à part le monde. Parce que le Zman, c'est une création. Et avant la première étincelle de création, on ne peut pas demander qu'est-ce qu'il y a avant, puisque le temps commence à ce moment-là et il n'y a pas d'avant. De même, on ne peut pas demander, par rapport à l'espace, qu'est-ce qu'il y a à côté, parce que sans la création, l'espace est rempli de divinité et qu'il n'y a rien ni avant ni à côté. Il n'y a que la présence divine. Et nous, lorsque on enseigne nos enfants, on essaie de leur faire comprendre qu'on ne demande pas qu'est-ce qu'il y avait avant le monde. On ne demande pas qu'est-ce qu'il y avait en dehors du monde ou ce qu'il y a en dehors du monde. Parce que ça ne se peut pas. Parce que le monde, c'est l'endroit du bon Dieu. On est chez lui. C'est juste un espace qui nous est proposé pour le découvrir, derrière lequel il nous transmet des messages, comme dit le Ramban, Milachon et Elem. Là où tu vois, c'est que le bon Dieu t'a laissé voir et qu'il est apparu sous une autre forme. Il n'y a pas d'avant et d'autre part. Cette notion-là, c'est la raison pour laquelle le Tanya dit que ce que nos Chachamim nous disent, que le monde a été créé Yesh Me'ayin, ex nihilo, en vérité il faudrait dire Ayin Me'yesh. Parce qu'avant la création du monde, il n'y avait que la divinité. À partir du moment où le monde a été créé, il a la possibilité pour l'homme de voir autre chose que la divinité. C'est pour ça que Rav Dessler dans la Mirtam Eliyahu demande, alors si on prend au sérieux la formule Yesh Me'ayin, qu'est-ce qui a été créé? Est-ce qu'on est vraiment obligé que c'est Aïn Meyesh? Rien n'a été créé. C'est juste une forme des choses. Mais les Chachamim ont quand même dit Yesh Me'ayin. Il répond une réponse que chacun doit faire sienne. Il dit la seule chose qui a été créée, c'est Amekabel. La seule chose qui a été créée, c'est qu'il y a un réceptacle, il y a une écoute. Il y a une possibilité d'entente. Avant, bien que ça n'était pas avant. Autre part, c'est toujours la divinité. Le monde, ça n'est que chez le bon Dieu. C'est pour ça que nous l'appelons Me Como, on est chez lui. Mi Me Como, c'est le monde. Mais on doit comprendre que nous, nous pouvons nous développer, c'est ça le yesh. Nous avons une possibilité de bénéficier de cette divinité. C'est pour ça que il dit qu'Akadosh Baruch Hu est Noten. Vous savez que Noten, ce sont les mots qui se lisent des deux côtés. Parce que ce sont les mots de l'autonomie. Comme Shemesh. Ça que la Gemara dit que David Ameler et David Malkam, c'est le même David. Puisque David, c'est une création en dehors de l'histoire autonome. C'est lui qui reviendra les premiers au Triat HaMetim avec le Mashiach. Et David Malcolm, bien qu'il y aura un autre roi David, mais le David, il est toujours là, comme le Shemesh, comme l'eau, comme tout ce qui se suffit et qui n'a pas besoin de support. Un homme ne peut jamais être un vrai Noten, parce que ce qu'il a, il l'a pris de quelque part. Mais un homme peut être un Mekabel. Il peut recevoir parce qu'il peut grandir. Et le Maharal dit que chaque fois que tu verras le mot grand, Gadol, tu dois penser au Dilug et tu dois penser au Dgalim. Me daleg ale harim, me kapet salagvaot. Grandir, ça veut dire sauter par-dessus. Grandir, ça veut dire avoir un drapeau, une spécificité. Et chaque fois que tu vois le mot Gadol, en vérité, dans ta tête, tu vas lire Dogel. Tu vas dire le Daleg. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que la Gemara dit Medalgim Ayinu Al Gabe Aronot. Celui qui saute par-dessus l'obstacle, il s'élève. Celui qui ne tient pas compte de ce qui est placé en face de lui pour soi-disant l'empêcher d'avancer, il surmonte, il s'élève. On appelle ça medaleg. C'est ça la gadlout, c'est ça grandir. Et celui qui acquiert une spécificité, il a un but. Il a une façon de se définir, il a un dégel, c'est son drapeau. Il a une légitimité parce qu'il a un but, il a quelque chose à lui, c'est quelqu'un qui grandit. Si tu n'as pas de but et si tu ne sais pas éviter les obstacles, alors tu ne peux pas grandir parce que chaque fois que tu verras Gadol, pense Milachon Dilug. Et pense Milachon Degel. Cette chose-là, c'est un grand yesod pour le chinour. C'est une chose qu'il faut comprendre, que lorsqu'on veut développer quelqu'un en face de soi, à ce moment-là, on doit savoir qu'il faut lui donner une spécificité. Il faut lui donner une personnalité. Il faut lui donner quelque chose de spécial. Il faut lui donner un Degel, son drapeau. Il va se définir. Et en même temps, il faut lui apprendre que les obstacles sont là pour être franchis. Et c'est ça ce qu'on appelle la gadlout. Le katan, l'enfant, c'est celui devant lequel on enlève l'obstacle. Mais lorsqu'on veut commencer à lui expliquer qu'il faut grandir, ce qu'on appelle le chinour, ça veut dire l'habituer à ce qu'il doit faire, il faut lui placer des obstacles. Et il faut qu'il apprenne à les surmonter. La première chose, il dit Rabbi Shimon Raphaël Hirsch, il faut lui apprendre le Emet. Et le Emet, c'est que la réussite, l'approbation, la justification, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est l'effort que la personne a fait. Lorsque la Gemara, elle nous dit que dans ce monde-là, on a une possibilité d'être moël. L'imol mal, me ila, c'est le vol lorsque l'on parle de quelque chose qui est attribué à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on vole un homme, ça s'appelle Gzela ou Gneva. Lorsqu'on vole le Hekdesh, ça s'appelle Me'ila. Tout le monde a compris que la seule façon de ne pas être Moël Bakadosh Baruch Hu, bien sûr, c'est dans la Tzurah, ce qu'on appelle la Bracha. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître à qui ça appartient. Alors à partir de ce moment-là, ça t'appartient vraiment. Mais ça va beaucoup plus loin. Lorsque la Gemara dans Sanhedrin, elle demande à Adam la Amal Yulad, l'homme est fait pour la peine. Et la Gemara demande quelle sorte de peine, tout le monde a compris que c'est la seule chose qui va appartenir à l'homme. C'est son Amal, parce que sinon il est Moël. Il n'y a rien à toi, puisque Mekomo, il est Malé Olam. Puisque la divinité, elle remplit le monde entier. Et que tu n'as aucun moyen dont tu es l'auteur ou le propriétaire. Quelqu'un se demande un jour, il va prendre une graine, il va la planter, ça va donner un arbre et des fruits. C'est vrai qu'il a mis la graine en terre. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Juste placer la graine dans la terre. Faire pleuvoir, il ne sait pas faire. Qu'il y ait le soleil, il ne sait pas faire. Alors quelle est ta part? Et quelle est ta part du Olam de Hakadosh Baruch Hu? Il faut comprendre que lorsque ça réussit, c'est pas toi qui as réussi. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Parce que les adultes ont des problèmes immenses avec ça. La réussite, le fait que dans les formes, ça s'appelle ce que les autres attendent, on a tendance à donner une valeur. Mais ce n'est pas le Emet, ça. La vérité, ce n'est pas ça du tout, du tout. La vérité, c'est que ça ne t'appartient pas. De même que tu peux ouvrir une boutique, tu peux faire de la publicité, tu peux te former à la vente, mais tu ne peux pas amener le client. Tu ne peux pas choisir la météo pour qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas. Tu ne peux pas choisir s'il y a une crise ou non. Alors, qu'est-ce qui t'appartient? Alors, je veux dire ce qui t'appartient. Le Rambam dit que l'exemple du monde, le monde en petit, c'est le Mishkan, le sanctuaire que Moshe Rabbeinu a érigé dans le désert. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, « Asok beyadecha » Il ne savait pas comment le faire. Il avait des plans, mais ça ne tenait pas. Il lui a dit, Asok beyadecha vu omed me'elav. Toi, tu fais ce que tu dois faire avec tes mains. Vu omed me'elav. Et tu verras que ça tient tout seul. Vanikote valecha. Et moi, je vais écrire dans la Torah à ton propos. Vakimota et Tamishkan. Que c'est toi qui l'as fait le Mishkan. Ah, et c'est incroyable. C'est-à-dire que la personne, elle entraîne le bon Dieu. Comment? Elle est au sec beyadecha. Toi, tu fais ce que tu peux faire. Toi, tu fais ton effort. Toi, tu apprends ce que tu dois apprendre. Toi, tu te spécialises le plus possible. Une fois que tu as décidé que c'est comme ça qu'il faut faire, tu mets la main à la pâte. Après, c'est omed me'elav. Le monde est construit d'une façon où tu n'as pas du tout la possibilité d'intervenir. Ça m'en croit. Puisque tu es au sec beyadecha, il a dit à Moshe Rabbeinu, ou omed me'elav, le monde va marcher tout seul. Il n'y a pas besoin de toi. Juste ne pense pas que c'est toi. Anikotev, il n'y en a qu'un qui peut dire que c'est toi. C'est Akadosh Baruch Hu, mais toi tu ne peux pas dire que c'est toi. Toi tu peux seulement dire que tu étais au sec beyadaim, ou omed velav, va anikotev. Alors Akadosh Baruch Hu peut dire que c'est toi. Ça, ce sont des choses qui sont la définition même du Emet. C'est à tel point que le Chafetz Chaim est donné un machal. Le Rav Etzraïm donnait une parabole et disait ceci. À ce moment-là, il y a plus de 100 ans, c'était le début des trains, et un paysan un jour est arrivé à la ville, il a vu la gare. Il n'avait jamais vu un train de sa vie. Il a vu qu'un monsieur avec une belle casquette blanche avait un sifflet. Et lorsqu'il sifflait, tout le monde courait dans les wagons. Et au deuxième sifflement, la machine partait, le train partait. Il est allé à côté de cet homme-là, avec sa belle casquette blanche. Il lui dit, explique-moi comment marche ton sifflet. Tu te rends compte, avec un sifflet, t'as fait rentrer les gens. Avec un sifflet, t'as fait démarrer la machine. Il lui a dit, Shote Shebaolam. Moi, je siffle, et ceux qui doivent faire se mettent en marche. Il dit, le Chafetz Chaim, nous aussi, on est comme ça. Nous, on fait le sifflet, et on s'imagine que la locomotive, elle marche grâce au sifflet. Mais dans la vie, c'est pas comme ça. Alors, c'est difficile de savoir quel est le guédère. Ça, qu'un jour, j'ai entendu du Mashgiach, Zichron Elivracha. Il dit, Rabbeinu Yehuda Omer, Rabbeinu Yehuda, il dit dans le Charet Tshuva, Yazor Hashem Lashavim, Akadosh Baruch Hu, il aide tout celui qui veut venir vers lui. Kaasher En Yad Tivam Maseget. Il dit, El Mashgiach, seulement lorsque tu as compris que de par la nature, ta main, elle ne peut pas aller plus loin. Asson-la Yazor Hashem. Bien sûr, tu peux disposer du bon Dieu. Bien sûr, il a mis le monde à ta disposition. Mais il t'a demandé juste une chose. Asok beyadecha, toi tu fais ce que tu vas faire. Vous omed melav, les choses, elles marchent tout seules. Ne t'imagine surtout pas que c'est toi qui les fais marcher. Et si un jour quelqu'un écrira que c'est toi qui les as fait marcher, c'est seulement le ribono shel olam. Parce qu'il n'y a que lui qui peut dire que tu l'as entraîné et tu as fait ce qu'il fallait. Et par quoi tu as fait? Par ton effort. Un homme n'a que son effort et ses choix. Il n'y a rien d'autre qui lui appartient. Tous les moyens appartiennent au bon Dieu. C'est ça la vérité, et c'est comme ça qu'il faut expliquer à un enfant. La réussite, c'est un mot obscène pour un ben Torah. La réussite, de savoir si on pense que c'est bien, si ça a l'air bien ou non, c'est quelque chose qui ne se prononce pas chez nous. Pourquoi? Parce que c'est pas le émet. Ça va à tel point qu'on ne peut même plus être compris. Il y a à peu près un mois, quelqu'un est venu et m'a dit, mais vous rendez compte? Comment vous n'avez pas pitié de ces Palestiniens? Alors que l'opprimé, va Elohim, va Keshet Nirdaf, le bon Dieu, il recherche l'opprimé. Et je me suis dit, c'est difficile de lui expliquer. D'abord parce que il faudrait essayer d'avoir pitié. Et si on fait des efforts, on peut arriver aussi à avoir pitié. Après, il faudrait savoir combien on est d'accord, on n'est pas d'accord, combien on subit pas. Mais au fond, je me suis dit juste une chose. Comment est-ce que le goy voit? Il voit selon ses sentiments. Celui-là, il a mal et celui-là, il tape. Mais ça, c'est du point de vue de la réussite ou la non-réussite. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui est juste et l'autre qui est dans l'injustice. Et ça n'empêche pas que celui qui est dans l'injustice, il peut avoir mal. Hein. Mais qui t'a dit de juger selon ce barème? Nous, on doit éduquer nos enfants à rechercher non pas l'impression, non pas le sentiment, à rechercher qu'est-ce qui est vrai. Emet Keneval Timkor, ça ce qu'il dit, Reb Shimshon Raphaël Hirsch. La première chose, c'est d'apprendre, d'enseigner qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui fait partie de l'extérieur. Tout ce qui est extérieur, ça n'est pas vrai. C'est pour ça que il faut absolument insister auprès des enfants. Plusieurs fois, j'ai essayé d'éveiller les professeurs à ceci. Il faut qu'un enfant fasse des choses bien en cachette. Personne n'est obligé de savoir. Sinon, il ne se construira jamais une vie de Emmet. Les bêtises, il les fait bien en cachette. Alors, il faut lui faire comprendre qu'il doit imaginer des choses, des actions qui sont bonnes, et que personne ne sache, et que c'est là où il réussit. Dans le reste, C'est quelque chose d'extérieur, la réussite. Ça ne dépend jamais de lui. Mais lorsqu'il a décidé de faire une chose et que personne ne le sait, c'est ça ce qu'on appelle la vraie réussite. Ça, ça lui appartient. Je ne vais pas rentrer dans ce que le Maharal appelle « Seter Amadrigue », qu'il est possible qu'il n'y ait rien qui soit dévoilé et qui ait une importance. Parce qu'il faudrait raisonner en pourcentage, et on peut discuter, c'est pas mon propos, mais une chose, on est obligé de dire aux enfants, et on est obligé aussi soi-même de se conduire comme ça. Ce que personne ne sait a une valeur. Dès que les autres le sachent, c'est dévalorisé. Combien, on peut discuter. Dans quel cas, on peut discuter. Mais dans le principe, il est certain que c'est comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile, puisque soi-même, on n'a pas de vie émette à l'intérieur, et qu'on vit la vie de la société, on épouse les causes de la société, on écoute ce que dit la société, et la société, c'est la démocratie, les gens, le vox populi, le bonheur. Mais on n'a pas une vie de émette. La vie de émette, elle est cachée. On ne la connaît pas. On ne doit pas la connaître. Chaque homme doit avoir un seder dans sa vie, qu'il étudie Biyoun dans la B'kiyout, que personne ne doit savoir. Et ce sera peut-être le seul limoud d'un jour qui va amener au Ribono Shel Olam. Ça n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qui est caché. Le monde est fait comme ça. Le Ribono Shel Olam se cache, c'est ça, Seter Amadriga. Bemistorim tif kenafshi, Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas parce qu'on vit dans le Olam, dans le LM. Mais le Mekabel, celui qui doit grandir, il peut grandir de cette façon à partir du moment où il sait que c'est sa vie intérieure que personne ne saura jamais. C'est pour ça que un jour quelqu'un est allé chez Abraham Sonnenfeld et il a vu dans un tiroir. Il avait écrit quelque chose, il n'a pas voulu le montrer. Il a dit, ça c'est ma dracha pour le Olam Haba. De ce que tu sais, parce que le Goen il écrit comme ça, qu'un homme doit avoir près des choses qu'il a comprises, des choses qu'il a imaginées, des choses qu'il a été mechadesh, il doit être prêt. Parce que on n'est pas obligé de tout raconter ici. Et même lorsqu'on raconte quelque chose qui peut être de la rouchaniyout, quelque chose qui est du domaine du divin, on peut s'appeler Megalé Sod comme Yaakov Avinu, où le Midrash dit à son propos, Oler Rachil Megalé Sod. Il y a des choses dont on n'est pas obligé de parler et que personne ne doit savoir, parce que l'œil de l'autre, ça salit. Essayez de faire comprendre ça à un jeune. C'est l'avoir compris soi-même. Et vous avez compris la vraie question. Parce que la vraie question est celle-ci. Chanoch lanar al pidarko, un homme est obligé d'éduquer ses enfants. Pourquoi le monde a été fait comme ça? Est-ce que c'est pour les enfants ou pour les parents? Et bien malin qui répondra à cette question. Le fait que tu dois éduquer les autres, c'est peut-être seulement pour que tu t'éduques. C'est pour ça qu'Rabbi Israël Salan tardit. Chanoch lanar al pidarko. Tu dois éduquer l'enfant selon son derer. Gam ki azkin, lorsqu'il vieillira, le yassom imeno, il ne le quittera pas. Il dit Rabbi Israël Salan ter. Mais attention. Al pidarko, c'est quoi le derer? Il y a différents pshatim. Il dit Rabbi Israël Salan ter, al piderer achinuch. Et là, on passe déjà à la deuxième chose qu'il dit. Il dit, il fait éduquer un enfant au guéder. Il y a des barrières, il y a des limites. On a déjà amené beaucoup de raïod, beaucoup de preuves, que chez les Chazal, chez les Chachamim, ils considéraient que la mitzvah ou la vera, c'est-à-dire que je fasse bien, ou que je me trompe, que je fasse mal, ça n'était pas du tout le problème. Alors la Gemara, elle dit, « El adam chote lemken nichnas boruach shtut. » Un homme ne faute que s'il devient déséquilibré. Le problème, il est, pourquoi tu es devenu déséquilibré? On ne demandera pas à quelqu'un pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. On lui demandera pourquoi tu ne t'es pas préparé à faire ceci et tu ne t'es pas préparé à faire cela. Un homme doit se construire. C'est ça, appartenir à la gadloute. C'est plus un enfant. Et un homme, lorsqu'il se construit, il doit comprendre que pour se construire, pour pouvoir acquérir une personnalité, il faut qu'il se fixe lui-même ses barrières et qu'il sache se construire un chemin afin que ça l'amène qu'au moment de la décision, il ne soit pas déséquilibré, ni dans un sens, ni dans un autre. Je ne veux pas insister là-dessus, mais tout le monde a compris que de même que, en ce qui concerne la vera, on peut être un choté, en ce qui concerne les mitzvot aussi, on peut être un choté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des mitzvot malgré eux. Ils le font parce que c'est social, c'est la réussite. Ils croient que ça marche. C'est ça que le Rambam me dit. Dans le 10e Perek Me'ilchot Tshuva, celui qui marche mipnei haïra, il marche parce que il a peur ou il a envie. Il sait rien, celui-là. C'est pour les enfants. C'est derech haktanim. Un homme doit marcher parce que c'est son derech, parce qu'il s'est construit. Pas parce qu'il a peur des conséquences ou il a envie de conséquences heureuses. Ni dans ce monde-ci, ni dans le monde futur. Il doit se construire un chemin qui est le sien. Et on ne lui demandera pas est-ce que tu as fait ou pas fait. Parce qu'au moment où on fait, on est à nous. On est déjà en prise avec la nature, avec l'extérieur, avec ce qu'on appelle la réussite, c'est-à-dire zéro. Quand est-ce que tu prends de la valeur? Lorsque tu t'es construit un chemin. On ne te demande pas de ne pas fauter. On te demande que tu sois un homme qui a la manière de ne pas fauter. On avait dit un jour, de même que lorsqu'on pèse les mitzvot et les averot, ça n'est pas la mitzvah elle-même et la avera elle-même qu'on pèse. Parce que la mitzvah ou la avera, l'ordre ou l'interdiction, il n'y a rien à peser. Ce qu'on pèse, c'est son impact sur l'homme. Combien ça appartient à l'homme? Et on avait dit pourquoi c'est obligatoire. Parce que le Rambam dit d'après la Gemara dans Rosh Hashanah qu'un homme doit se considérer toujours comme Benoni. Le bon Dieu pèse les mitzot et la averot et toi tu es un Benoni. Tu es moitié-moitié. Non seulement toi tu es moitié, mais le pays où tu vis c'est moitié-moitié. Ce sont tous ni des tzadikim ni des roshaïm. C'est au moins des Benonim, des moitié-moitié. Et la question elle est très simple. Tu te rends compte combien il faut de chance statistiquement pour que tu tombes sur moitié-moitié si on pèse les mitzot et la averot? Et même si tu dis qu'on ne pèse pas le nombre, on pèse la valeur, mais on ne tombera jamais sur moitié-moitié. Et si par hasard il y en a un qui tombe sur moitié-moitié, tous les hommes non. Et si tous les hommes non, tous les mdinot non. Et si tous les mdinot non, pour que le monde entier il tombe sur moitié-moitié, c'est comme les goyim, chaque fois que tu lui demandes. Mais comment c'est possible ce que vous dites, le hasard, il t'ajoute 15 milliards d'années. Et si tu ajoutes 15 milliards, alors c'est possible. Alors tu te rends compte combien de possibilités, chaque Rosh Hashanah, que ce soit moitié-moitié. Alors c'est impossible, ça ne veut rien dire. Ce qu'on pèse, c'est l'impact sur toi. Le tzaddik n'est pas celui qui ne fait pas de mal. Tout le monde en fait. Le tzaddik, c'est celui qui a tiré son chemin, c'est celui du bien. Il recherche le bien. On appelle ça le rov. Le rachat, ce n'est pas celui qui ne fait rien de bien. Il peut aussi faire des mitzvot. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il recherche? Malheureusement, le Benoni, Quand il a une occasion de faire bien, il fait bien, et puis le lendemain, il a une occasion de faire mal, il fait mal, parce qu'il n'est pas construit, c'est ce qu'il dit le Rambam. Considère-toi comme un Benoni, c'est pas... Le Benoni n'est pas quelqu'un à qui on a pesé les choses et on arrivait par hasard à moitié-moitié. Le Benoni, c'est celui qui est attiré par les deux, parce que tout le monde est attiré et par là, et par là. Parce qu'un homme a en lui des kohotes, il a en lui des forces, qui font que il n'y a aucune raison pour qu'il soit plus d'un côté que de l'autre. Et lorsqu'il se construit un petit peu, il est un Benoni. Et le Benoni, le moitié-moitié, c'est pas une question de chance, c'est pas une question de statistique, c'est pas une question de poids, c'est une question de construction. Lorsqu'arrive le moment où le bon Dieu juge, il juge est-ce que tu es attiré par là, ou tu es attiré par là, ou tu es attiré par les deux, ça dépend des fois. La majorité des gens sont des bénonymes parce qu'il faut se construire. Se construire, ça veut dire avoir un chemin pour savoir comment faire et comment ne pas faire. C'est pour ça qu'on avait dit que la Gemara dans Sanhedrin, elle raconte que Bilam, le prophète Bilam, lorsqu'il a voulu s'attaquer au peuple juif, il a dit... Ils aiment les habits en lin. Ohavim klepishtan. Tu vas mettre des stands. La vieille, tu la mets devant. La jeune, tu la mets derrière. Et la jeune, elle est derrière. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui s'y connaît, il veut le meilleur choix. Alors on lui dit, va derrière. Et la lumière rouge, elle s'est déjà allumée, elle clignote, il voit rien, il va derrière. Et après, elle lui demande s'il ne veut pas l'apéritif. Et la lumière, elle a clignoté une deuxième fois, et il n'a rien vu. Jusqu'à l'air va avoda avoda zara. Mais Bilam, il avait tout à fait compris le problème. Tu aimes les klepishtam, tu aimes te vêtir, mais la lumière, elle s'est allumée. Tu dois reconnaître lorsqu'elle s'allume, c'est ton chemin que tu dois forger. Ah bien sûr, une fois que tu as bu. Une fois que tu n'es plus dans ton état normal, alors en Adam overa vera elaimken nirnasa borarshtut. Bien sûr que tu es déséquilibré. Mais on t'a allumé plusieurs lumières, les feux rouges se sont allumés, ça a clignoté de tous les côtés. Un homme doit s'éduquer à voir lorsque ça clignote et mettre lui-même les clignotants. C'est ce qu'il appellerait Shimshon Raphaël Hirsch qu'il faut mettre les gdarim. Un homme doit avoir des limites, il doit avoir des barrières. Pas celles qui sont placées. Celles qui sont placées, elles sont nulles. Elles sont seulement vis-à-vis de l'extérieur. C'est à lui de les placer. C'est à lui de se forger une personnalité. Et c'est comme ça qu'il va grandir, parce qu'il va avoir un dégel. Son dégel, quelquefois, si on a une vraie personnalité comme Yosef HaTzadik, on peut en avoir un double. On peut en avoir à vendre. C'était le Otto Yosef. Nishar Betzidko. C'est pas facile ça de se forger un chemin. Et lorsqu'on s'est forgé un chemin, on a un drapeau, on a une définition. Et lorsqu'on s'est forgé un chemin, c'est pas seulement pour le jour même. C'est pour des générations et des générations. C'est pour ça que la Gemara dans Rayot, elle dit, si jamais tu as trouvé un assassin dans le clan d'Israël, alors, le Bédine doit venir et dire « Kaper l'amcha Yisrael asher padita » Omar Avune « Melamed shemeishim tzrichim kapora dietzi mitzraim » Même le mort, depuis la sortie d'Égypte, si un assassin, 30, 40, 50 générations après, il a encore des comptes à rendre. C'est pour ça que le khatat du Moussaf, même si quelqu'un est mort, ça ne s'appelle pas Khatat Shemetu Baalea. Parce que le Gabé Tzibur, il y a besoin de Kapore Adieu de Mitzrayim. Ce qu'on fait, ça a de l'importance. Ça trace un chemin, pas seulement chez toi. Troisième chose qu'il dit Rabbi Yisrael Salanter, c'est une chose extraordinaire. Il dit. Il faut qu'un enfant comprenne qu'il y a un sachar et un onesh. Chaque chose se paye. Il n'y a rien qu'on fait pour rien. Il n'y a rien qu'on fait qui n'a pas de conséquences. De nouveau, c'est la même raison, c'est parce que tu habites chez le Ribbono Shel Olam. Tu ne disposes pas de quelque chose qui t'appartient, tu disposes de lui. Et chaque chose, non pas se paye ou se paye dans les deux sens, parce que tu peux recevoir un paiement comme tu peux être obligé de payer. Mais ça veut dire que chaque chose a besoin d'être justifiée. Même les choses les plus horribles, un jour, on les justifiera. Parce que la Milat Adin, c'est pas le Efker, c'est pas le n'importe quoi. C'est que c'est le Din, ça se justifie. Ça va tellement loin qu'il est difficile de savoir jusqu'où. Mais on va donner un exemple. Un Agmor dans Bavo Kama d'Afnon, elle raconte. Il y avait une petite fille qui était tombée dans un trou, qui a été creusée par son père, qui était Chofer Sichin. Et on est allé chez Rabbi Hanina ben Dosa pour qu'il prie. Et il a dit, Shalom, ne vous en faites pas, c'est pas grave. La deuxième fois et la troisième fois, on lui a annoncé qu'elle était sortie du trou. Et on lui a demandé, d'où est-ce que tu savais? Il a dit, lo navi, velo ben navi. Je suis pas un prophète, mon père n'était pas un prophète. Mais il y a une chose que je sais. Davar shenitzter alav oto tzadik. Lorsque quelqu'un va creuser des trous pour recevoir l'eau, pour que les Olé Rogalim, ceux qui vont à Yerushalayim pendant les trois fêtes, puissent s'abreuver. Davar shenitzter bo alav oto tzadik. Il y a un paklal. Lo yikashel bozaro. C'est pas possible que sa descendance ait à pâtir de cette chose-là. Il y a une justice. D'où est-ce qu'il savait que c'était ça la limite de la justice? Et est-ce que c'est dans tous les cas? C'est pas si facile de savoir comment le bon Dieu fonctionne. C'est très compliqué, plus compliqué que nous. La Gemara elle dit, Afal piken met beno batsama. Et malgré tout, cet homme-là dont la fille avait été sauvée, son fils est mort de soif. Le kayem machenéravar ou svivav nisara meod. Ou Rabbi Hanina dit, quel narod besot kedoshim. Plus tu t'approches du bon Dieu, plus le din est implacable. Demande le Maharal de Prague. Mais c'est pas le din, puisque justement, Rabbi Hanina ben Dosa a dit, davar shenister, ala voto tzadik, loikashel bozaro. Puisque lui, il a fait un effort. Il n'est pas juste que sa descendance en pâtisse. Et lui, il a abreuvé les Olé Rogalim. Il dit, le Maharal, mais tu as oublié que ce n'est pas lui qui fait couler l'eau. Tu as oublié que lui, ce n'est pas la météo. Lui, il fait seulement le trou. Donc dans le trou, sa fille n'est pas tombée. Mais l'eau, c'est à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Lorsqu'on est petit, on s'imagine que le monde vous appartient. On s'imagine qu'on fait tout. Lorsqu'on est proche du bon Dieu, on voit de plus en plus qu'on n'est rien. Et puisque tu as vu que tu n'es rien, alors chaque chose, elle se justifie. Tu l'as vu, tu vas payer. C'est très difficile de faire comprendre que la chokhma, comme ça dit l'Yerushalmi, Shalou la chokhma, choté, celui qui a fauté, que va-t-il lui arriver? Et la chokhma, la sagesse, a dit, ratidofra. Le mal produit le mal se colle au mal. Il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée. C'est ce qu'on appelle le sachar et le onesh. Ça veut dire que de nouveau, tu dois comprendre que ça n'est pas la réussite extérieure. Ça n'est pas l'extérieur du tout, du tout, du tout qui compte. C'est la façon dont tu comprends que les choses se passent. Chaque chose doit être justifiée. Pour nous, c'est très difficile à comprendre. Et je vais vous dire au point que c'est difficile à comprendre. C'est qu'on a pris l'habitude de tricher. On ne justifie jamais rien. Mon épouse, qui ne peut pas venir ce soir, mais qu'elle est refouée chez l'EMA, reçoit une revue de, je sais pas, psychologie, pédagogie des directeurs. Il y avait une enquête très intéressante En 1960-62, je ne me rappelle plus, on a demandé aux parents, vous avez les sujets du bac, est-ce que vous les donnez à vos enfants? 80% non, 10% on ne sait pas, et 10% oui. On a demandé en 2005, est-ce que vous les donnez? 90% oui, 5% non, 5% on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Voilà ce qui s'est passé. C'est que on a oublié, et on nous a fait oublier, qu'il existe un sravonesh, une mélatadine, chaque chose de ce pays. Ça ne sert à rien de tricher. Tu triches vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la réussite? C'est pas dans ton domaine. Asok beyadecha, vous omen melav. Tu triches pourquoi? Pire que ça, on est devenu des hypertrophiés de la frustration. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va plus. J'ai été très étonné. C'est que les gens sont tellement sensibles parce qu'ils ont l'habitude de ne jamais payer. La note, il n'y a plus de note. Tu vas chez le médecin, tu as une carte vitale, tu vas à la banque, tu as une carte machin, t'as... le type, il ne sait pas même soit plus qui paye. Il n'y a plus de bidatadine. On ne se rend plus compte qu'il faut payer. Il faut justifier. Il y a des gens qui sont venus me voir, des gens que j'estime beaucoup. Mais la maman, elle a pleuré parce que sa fille n'a pas eu le tableau d'honneur. Pourquoi c'est comme ça? Et moi, je n'ai pas osé lui dire ce qui a marqué dans les Sfarim. Arel Rambam, il dit, tape les enfants, même s'ils n'ont rien fait. Il y a un forge du Rambam, Bessioud, je crois que c'est lui, je ne me rappelle plus. Il dit, c'est ce qu'il dit Rambam, il dit une chose incroyable ici. Comment tu vas enseigner l'injustice aux enfants? Tu crois que le monde est juste? Tu crois qu'eux, ils vont avoir affaire à la justice? Tu crois que dans la vie, il n'y a que les choses justes? Comment tu vas enseigner l'injustice? Un moré, il dit, moré, celui qui enseigne aux enfants, il doit être injuste. Bon, il faut garder les proportions. Il va choisir des moments où il va punir celui qui n'a rien fait. Et si tu comprends pas ça, c'est que tu as désadapté ton enfant à la vie. Il dit, le Rambam frappe s'il n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il faut lui apprendre que la vie n'est pas facile. Il faut lui apprendre que le Olam, c'est le Olam du Sheker, le monde du mensonge, et que tout est injuste. Pourquoi on est arrivé là? Je vais vous dire ça à Botin, pourquoi? Parce que il y a un moment où les générations d'adolescents ne sont plus devenus adultes. Ils sont restés adolescents. Ils ont des mauvais souvenirs. Lorsque le prof était injuste, il se rappelle qu'il était injuste. Il ne se rappelle pas que le prof leur a enseigné que devant l'injustice aussi, on peut s'en sortir. Parce que, il dit le Maharal, il faut pouvoir être medaleg. Il y a des obstacles. Il faut savoir être au-dessus. Aujourd'hui, on ne laisse plus vivre l'enfant. On lui enlève tous les obstacles. Alors, il ne peut pas grandir. Parce qu'il n'aura jamais de dégueul, puisqu'on lui dit toujours comment faire, on lui demande jamais son avis. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu à Bachor à la Yeshiva, et il m'a raconté que il se faisait de l'argent de poche le soir, de temps en temps, en donnant des cours de maths. Il donnait des cours de maths non seulement à ceux qui faisaient le bac, mais ceux qui étaient à la fac, alors que lui, il avait juste fait le bac. Je lui ai dit, mais comment tu en es arrivé là? Il m'a dit qu'un jour, comme il était nul en maths, il s'est demandé pourquoi lui, il est plus nul que les autres. Personne n'a réussi à l'expliquer exactement. Alors il a pris un livre de maths de 6e, et il l'a pris jusqu'à ce qu'il sache tout, après de 5e, après de 4e, 3e. Jusqu'à ce qu'en 2 ans, il a eu très bien avec mention au bac. Alors il s'est dit, si je peux faire jusque-là, je peux continuer aussi. Il m'a dit, à un moment, il faut s'arrêter, parce qu'il faut de l'imagination, il faut être doué. Mais on peut arriver jusqu'en licence. Peut-être même jusqu'à être agrégatif. On n'a pas besoin d'être doué. Il suffit juste d'une chose. Ne rien laisser au hasard. Tu comprends pas quelque chose? Tu ne me vois rien. Ne pas croire qu'on peut occulter quelque chose. Voilà. Mais les enfants, nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur enlève le Nisayan. On leur enlève le Dilug. Ils ne peuvent pas sauter au-dessus, ils ne peuvent pas s'élever au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on leur enlève les barrières. On leur donne une facilité qui les condamne à ne pas comprendre qu'il existe une mélatadine et que chaque chose se paye si cher que la justice de Ribono sur le lame, c'est une question qui doit poursuivre l'homme depuis qu'il est jeune jusqu'à son dernier jour. Ça, il faut savoir vivre avec ça. Seulement aujourd'hui, on ne sait pas parce qu'on n'a que des mauvais souvenirs de l'enfance. On n'a que des mauvais souvenirs parce qu'on a personne ne vous a expliqué ça. Personne n'a expliqué à l'enfant que le prof, il devait être injuste. Et que quand tu dis que le directeur, moi les gens souvent, ils viennent, ils me racontent, l'autre il a fait ça, celui-là a fait ça, lui a fait ça. Je me demande dans quel monde ils vivent. Est-ce qu'ils vivent dans un monde parfait ? Non. Alors quand tu vois l'imparfait, eh bien laisse tes enfants avec l'imparfait, sinon ils n'apprendront jamais. Mais c'est parce que toi, tu ne peux pas supporter l'imparfait. Parce que tu as de tellement mauvais souvenirs que tu es resté un adolescent. C'est pour ça qu'en fin de compte, on se rend compte que celui qui grandit, il a de quoi faire grandir ses enfants. Celui qui ne grandit pas, il ne pourra jamais faire grandir les autres. Maintenant, Baruch HaShem, le bon Dieu, il peut utiliser d'autres que les parents. Il y a toujours dans la vie le Bedi Eved, il y a le fait qu'il y a aussi Milat HaRachamim, il y a le fait qu'il y en a qui s'en sortent autrement. Et puis finalement, on ne fait pas grand-chose. Asok Biadecha, toi, tu mets la graine et puis après. Mais si on réfléchit, on veut savoir comment faire les choses. On est condamné à avoir ces choses-là et à se les construire, à les construire pour soi. Et à la fin, on aura la solution. Chanoch Lanar Alpidarko, on a demandé à un homme d'avoir une descendance et de l'éduquer. C'est possible que c'est pour lui, c'est pas pour la descendance. Qui t'a dit les motivations du Ribono Shel Olam ? Eh bien, maître, je ne suis pas si sûr que c'est pas ça le fond. Est-ce que c'est l'enfant qui est mechouyav ? Est-ce que c'est le père qui est mechouyav ? Si tu veux faire une mitzvah à un petit, c'est ton chiyuv ou c'est le sien ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est possible que c'est ton chiyuv, lui, il n'est que l'objet. Le sujet, c'est toi. Tu dis, mais lui, on parle. Oui, lui, à son tour aussi. Donc, qui c'est qui me dit que le chinoch, il n'est pas pour le père ou la mère, et il est pour l'enfant ? Ça, c'est ce que tu crois. Mais le Ribono Shel Olam, il ne fait pas les choses comme toi, tu crois. Et cette question, elle reste ouverte. Pourquoi le monde a été fait comme ça ? Le monde a été fait comme ça, peut-être pour que tu comprennes que dans la vie, et c'est ça ce qui dit Rabbi Israël Salanter, Chanoch Ladar Alpidarko, apprends-lui d'être mitraner. Ça, c'est difficile. C'est difficile d'apprendre à être mitraner. C'est pour ça que Rav Shach, il disait toujours, un maître, il doit être mevayesh, cet Talmidim. Parce que c'est marqué dans la Gemara qu'il est poton. Et si les Chazal, ils ont dit que c'est poton, que en le shum chiouf bouche, ça veut dire qu'il faut le faire. C'est pas juste un accident. Pourquoi ? Parce que dans la ville, on aura des bouchards. Sinon, c'est un coincé, un réfugié de la société. Dans la vie, tu vas en encaisser. Si, lorsque ton enfant encaisse, tu comprends pas que c'est bien pour lui, et que toi-même, tu devrais le faire, heureusement que c'est le prof qui fait, c'est plus facile. Tu vas chez lui, tu protestes, t'as rien compris depuis le début. Parce que tu es resté un adolescent, tu n'as que des mauvais souvenirs de ton père. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux enfants, très tôt. Et moi, je ne me gêne pas du tout de leur dire pour qu'ils comprennent bien. La définition d'un adulte, c'est celui qui ne tient aucun compte de la vie de ses parents. Parce que lorsqu'un enfant est enfant, il croit que son père, il a raison. Mais le copain qui est assis à côté de lui, il croit aussi que le père, il a raison. Et l'autre aussi que le père, il a raison. Alors c'est le père de qui a raison ? C'est parce que l'enfant, c'est un choté. Il est dans son monde, il ne comprend pas. Il faut l'éduquer. Il y a un jour où ce que tes parents disent, ça n'existe pas. Il ne tient pas compte de la vie de ses parents plus que des étrangers. Parce que de croire que parce que c'est ton père, il a raison. Comment c'est possible ? Tente le satré. Et l'autre aussi, il croit. Et on fait comment ? Mais un enfant, pour ça, il faut lui apprendre J'en arrive au dernier point qu'il faut bien comprendre. Ces derniers temps, on se demande comment faire face aux crises de l'adolescence. Parce qu'elles viennent. Elles viennent très vite, surtout dans les gens qui ficellent leurs enfants. Pas longtemps, quelqu'un qui habite chez nous à Épinay et qui éduque ses enfants vraiment d'une bonne façon, comme ça je croyais. Son fils qui est dans une échelle m'a téléphoné et il m'a dit pique-pendre de ses parents. J'ai dit, tu commences à grandir, c'est bien. C'est moi pourquoi on arrivait là. Et je vais dire pourquoi on en arrive là. La Torah n'a pas besoin de nous pour être défendue. Nous ne représentons pas la Torah, ni le judaïsme, ni la religion juive. Lorsqu'un enfant se rebelle contre son père ou sa mère, il n'a aucune raison de se rebeller contre le judaïsme ou la Torah. À moins qu'on lui ait fait croire que le père et la mère, ils font partie du judaïsme. Et ça, c'est la chose la plus sale possible au monde. Toi, tu étudies la Torah, tu ne la possèdes pas. Toi, ne te permets jamais de considérer qu'il y a une confusion entre la Torah et toi. Toi, tu étudies. Toi, tu essaies de faire les mitzvot. Toi, tu te poses des questions. Toi, tu as des réponses. C'est pour ça que la Gemara dit « Dvav besoufa ». C'est comment, chez nous, on résout les crises d'adolescence. Normalement, avoubono, ils sont oivim zelezé. Lorsqu'un père étudie avec son fils, ce sont des ennemis. Parce que le fils, il comprend que le père comprend rien. Le père comprend que le fils ne comprend rien. Ils sont oivim zelezé. Alchena soavim zelezé, à la fin, ils deviennent des gens qui s'aiment. Pourquoi ? Parce qu'il est normal que ton fils pense qu'il comprend mieux que toi. Parce qu'il s'élève, et lorsque quelqu'un commence à s'élever, il a tendance à généraliser. Et un jour, il a eu un bon terreau, s'il a une bonne réponse, alors il croit qu'il est capable de donner des bonnes réponses. Pas longtemps, un gosse de la Yeshiva Ktana est venu, m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de ce terreau ? J'ai dit, c'est pas mal. Ahmed, c'est un bon terreau. Il m'a dit, oui, alors je suis ennuyé maintenant au courant. Je dis, pourquoi tu es ennuyé au courant? Parce que je ne sais pas si je ne sais pas vraiment mieux l'Arnhem que le Rav. Ça, c'est pour un Théroutz. Alors imaginez, qu'est-ce que c'est pour deux Théroutzim? C'est normal, c'est bien, il faut que ce soit comme ça. Chaque enfant, lorsqu'il passe à l'âge adulte, il ne voit pas encore avec l'axe qu'il faut, avec l'angle qu'il faut. Il doit penser que je ne comprends rien, mais en limoud. La Torah, c'est autre chose. On se rebelle contre son père, parce qu'on pense que son père ne comprend pas les choses. Mais on ne se rebelle pas contre la Torah. Parce que ce n'est pas parce que ton père dit que la Torah vaut quelque chose qu'elle doit valoir chez toi. Et si c'est comme ça, c'est une erreur grossière du père. Rabota, il est anormal que lorsqu'on se fâche, lorsqu'on a une crise d'adolescence, on met la Torah au milieu. Peut-être aussi la météo ou la crise. Qu'est-ce que tu as avec la Torah ? Je me suis toujours demandé. Tipi Sorvel, il lâche tout. Je lui ai dit, mais comment tu lâches tout? Quel rapport entre ton père et la Torah? Parce qu'il est soumis à ça. Toi aussi, tu es soumis. Tu vas contester la droite et la gauche? T'es pas content, tu te rebelles contre la météo, tu éteins la radio? Mais ça, c'est une réalité. Ça n'appartient pas à la famille. C'est parce que le fils croit que c'est un choix des parents. Il faut le faire comprendre qu'on est soumis et qu'on a d'énormes difficultés, nous aussi. C'est pour ça qu'on a Israël était sorti une roverie qui s'appelle Al-Techet ou la Yeled. On fait croire à l'enfant que nous, on sait. On fait croire à l'enfant que nous, on est capable. Et là-dedans, il marquait, il voit des enfants qui prient. Et c'est vrai que c'est difficile pour de prier toute une Shmona Esrei. Une Amida entière, c'est difficile. Mais pourquoi tu ne l'expliques pas que toi aussi? À peine tu arrives à ta kadosh, déjà, tu as les cours de la bourse qui passent devant, tu as les écrans de... Pourquoi tu ne l'expliques pas ça, que c'est difficile? Que c'est difficile de se concentrer? Tu n'as pas expliqué ça. Alors lui, il croit que c'est sa difficulté. Parce qu'il croit que tu possèdes les choses. Mais toi, tu ne possèdes rien. Tu es soumis à la Torah, tu dois l'observer. Et tu l'observes aussi bien que mal et tu dois lui expliquer que c'est difficile. Sinon, on n'aura jamais la conscience du Sravonesh. Il va croire que les choses, elles viennent d'elles-mêmes, que c'est une éducation, que c'est un parti politique, que c'est un choix. Alors quand tu te révèles, tu te rebelles contre ce choix. Mais la Torah, c'est pas un choix. Tu dois bien lui faire comprendre que toi, tu n'as rien choisi. Tu t'es soumis à l'ordre et à l'intelligence des choses, mais tu n'as pas choisi quoi que ce soit. Parce qu'on ne t'a pas demandé. Parce qu'une seule fois, le Klal Israël, on lui a demandé « Naaseh v'nishma ». Et après, c'est devenu un ordre où « Bacharta b'chayim », c'est une obligation d'aller vers le Olam Haba. C'est ce qui a marqué « Una Hagenu Almut », que l'âme de l'homme, la personne de l'homme, elle espère l'au-delà. À partir du moment où on a compris ces trois choses, il est possible que l'éducation, elle soit plus facile, parce que on a toujours présent le fait de s'éduquer soi-même et le fait de penser à sa relation envers les choses. Je comprends très bien que mes enfants soient plus malins que moi et ils savent mieux leur donner que moi. Tout ça, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas qu'ils croient que j'ai quelque chose dans la Torah. Parce que s'ils croient que j'ai quelque chose dans la Torah, ils vont croire aussi qu'un jour ils auront quelque chose, et c'est eux qui ont choisi, et que ça leur appartient, et qu'on peut lâcher, on peut reprendre, on peut... Ça marche pas comme ça. Nous, on n'est pas un parti politique, on n'est pas une idéologie, on n'a pas besoin de justifier. Ne défend jamais la Torah. Il y a marqué « Dama shetashiv lapikoros ». Il faut savoir quoi répondre, mais ne pas être en cause. Et si jamais tu ne sais pas, c'est pas grave. Lui non plus, il ne sait pas. Qu'est-ce qui va arriver? Ah, il va en tirer les conséquences. Mais ce n'est pas ton problème. Asok beyadecha. Fais ce que toi tu peux. Et ce que tu peux, c'est déjà pas mal. On peut très bien expliquer énormément de choses sans prendre parti, sans penser que ça vous appartient. Mais lorsque les gens ils prennent les choses au mot, ils disent on est maître de la Torah, oh là là. C'est des mots qui... Il faut faire attention à ces mots-là. On est maître dans le cadre, mais on n'est pas maître d'eux. Il n'y a rien qui vous appartient, et on ne sera jamais en cause. Et si quelqu'un vient me poser une question à laquelle je n'ai pas de réponse, eh bien je m'attellerai à essayer de trouver la réponse, comme lui. Mais je ne dois avoir aucun complexe du fait que je n'ai pas la réponse. Il ne faut pas s'approprier les choses, il ne faut pas les défendre, parce que le jour où on n'arrive plus à vendre sa marchandise, on se remet en cause ou on remet en cause la marchandise. Il ne faut pas arriver, et beaucoup en sont arrivés là, lorsqu'ils ne sont pas arrivés à vendre leur marchandise, ils ont dit que la marchandise n'était pas bonne. Fallait un peu la rajeunir, fallait la ravaler, fallait la nettoyer, lui enlever la poussière du temps. Ça, c'est lorsqu'on se prend pour le défenseur. Alors quand ça ne marche pas, se remettre en cause, c'est tellement difficile qu'on remet en cause la marchandise. Le représentant de commerce qui n'arrive pas à vendre, chez le patron, il ne va jamais dire « je suis un mauvais vendeur », il va dire « la marchandise n'est pas bonne ». Et c'est à ça qu'on arrive très souvent, et on change la marchandise, et on s'approprie la marchandise, et on définit la marchandise, et on politise la marchandise. Nous, nous sommes simplement des lomdei Torah-Techa. Et à le vaille, que ce soit l'Ishma, encore une fois, je voudrais remercier tous ceux, surtout le traiteur M. Kubi, ceux qui ont organisé et qui sont occupés de cette soirée. Acharon, Acharon, Chaviv, vous savez que la tombola, chacun gagnera une lithographie de M. Alain Kleinman. C'est quelque chose d'exclusif qu'il a bien voulu nous donner. J'ai voulu lui laisser la parole, mais avec sa modestie coutumière, il n'a même pas voulu prendre 2 minutes ou 3 de votre temps. Kakadosh Baruch Hu le bénisse et le protège, lui et sa famille, ainsi que tous ceux qui nous ont aidés, et que ce soit toujours une source de bénédiction pour tous, pour les familles, pour les enfants, Adonai.